péché et le Fils de Dieu. Avant de plonger directement dans ma réponse à cette question, permettez-moi d'abord de vous faire un aveu. Je ne suis pas un témoin neutre. Alors, cela ne signifie pas que je suis plein de préjugés. Ma croyance en Jésus comme le Fils de Dieu est quand même fondée sur des preuves objectives, aussi bien que subjectives, impersonnelles aussi bien que personnelles, logiques aussi bien que vécues. Je suis donc impartial et objectif dans le sens que mes propos ne dépendent pas simplement de mes goûts personnels, de mes opinions, de mes idées préconçues. Mais je ne suis pas neutre. Quand je dis que je ne suis pas neutre, je veux dire non seulement que je crois, j'ai la ferme conviction, que cette croyance est vraie, mais aussi je me suis engagé personnellement du côté de celui qui est l'objet de cette croyance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En défendant la croyance de Jésus comme Fils de Dieu, je suis aussi peu neutre que Marie qui défend sa femme. Je ne suis pas comme ce soir comme un scientifique ou un philosophe qui défend son hypothèse. Je suis un amoureux qui défend sa bien-aimée. Je suis peut-être un amoureux inconstant et médiocre, mais un amoureux quand même. Je ne suis donc pas neutre. En fait, je suis ici ce soir pour défendre la foi. La foi. La foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes, comme dit le Nouveau Testament. Je ne suis pas ici pour défendre ma foi, ni pour vous raconter ma vie. On ne peut pas écarter les raisons que je vais vous présenter en disant qu'elles sont peut-être vraies pour lui, mais pas pour moi. Car ce sont des raisons objectives, des raisons universellement valables, des raisons logiques, des raisons philosophiques. Pour que deux personnes se comprennent, il ne suffit pas qu'ils utilisent les mêmes mots. Il faudra encore que ces mots aient le même sens. Donc nous allons commencer ce soir par définir ce que nous entendons par l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Que voulait dire Jésus quand il s'attribuait ce titre de Fils de Dieu? Ses auditeurs connaissaient bien le mot Dieu. Jésus, qui était juif, entendait par ce mot Dieu exactement ce que les Écritures juives entendaient par le mot Dieu. Ce n'était là le problème. L'expression « le Fils de Dieu », par contre, faisait bien problème. Aucun juif ne s'était attribué ce titre à lui-même, ni à aucun être humain. Bon, l'expression se retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais d'habitude c'est au pluriel, les fils de Dieu, et d'habitude cette expression désigne les anges. Que voulait donc dire Jésus quand il s'attribuait ce titre Fils de Dieu? Ben, le Fils d'un homme est un homme. Le Fils d'un singe est un singe. Le Fils d'un chien est un chien. Le Fils d'un requin est un requin. De même, le Fils de Dieu est Dieu. Fils de Dieu est un titre divin. Jésus prétendait posséder deux natures, humaine et divine. Il s'appelait le Fils de l'homme et il s'appelait le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme est un homme, Mais le Fils de Dieu n'est pas un Dieu, petit d. Le Fils de Dieu est Dieu, d majuscule. Car Jésus était juif, et donc un strict monothéiste. La vérité la plus importante et la plus certaine pour le juif était celle-ci, en Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Ce qu'un père transmet à son fils, bon, d'abord c'est la vie qu'il transmet, mais il transmet d'abord sa nature et son espèce. Le fils est égal à son père. Un fils humain, n'importe quel fils, est égal à son père en ce qui concerne sa nature et son espèce. Bien entendu, le mot fils est une image, est une métaphore quand il est appliqué à Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps physique. Donc Dieu n'engendre pas des fils biologiquement, physiquement. Jésus n'a jamais, en fait, n'a jamais donné une définition théologique de Dieu. Il a simplement appelé Père. Et il s'appelait lui-même Fils. Je crois que la plupart des théologiens et la plupart des philosophes chrétiens seraient d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul texte dans toute la Bible où Dieu nous dit ce qu'il est, dans un langage non imagé, non analogique. Ce texte se trouve dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 3, où Dieu est en train de parler à Moïse dans le buisson ardent. Vous vous souvenez peut-être de cette scène dans la Bible, dans le film des 10 commandements. À un certain moment, Moïse demande à Dieu, « Quel est ton nom ?» Et Dieu répond, « Je suis. » Mais cela ne nous dit pas ce que Dieu est. Cela nous dit simplement qu'il est. Je crois qu'une des choses que Dieu voulait communiquer par ce nom, c'est que ce qu'il est, son essence, n'est pas vraiment distinct de son existence, c'est-à-dire du fait qu'il existe. Dieu existe nécessairement. Il est l'existant, si vous voulez. Il y a certaines versions qui traduisent ce nom Yahvé par l'éternel. Une meilleure traduction serait peut-être l'existant. Il est le je suis. Il ne peut pas ne pas exister. L'affirmation Jésus est le Fils de Dieu signifie donc que Jésus est divin. Dans la personne de Jésus, en Jésus-Christ, nous rencontrons une personne qui a deux natures, humaine et divine. Les théologiens ont nommé cette croyance, qui est spécifiquement chrétienne, ont nommé cette croyance l'incarnation. L'incarnation signifie que Dieu, littéralement, s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Ce n'est pas que Dieu, le « Je suis » éternel, soit devenu un homme dans sa nature. Car la nature de Dieu est immuable. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Ce n'est pas possible. Cela veut dire plutôt que Dieu a pris sur lui une deuxième nature, une nature humaine. C'est ainsi que Jésus de Nazareth, fils de Dieu, avait une nature divine et une nature humaine. Même si ces deux natures sont opposées, et elles le sont bien, elles sont opposées. Être divin, c'est être infini, ni commencement, ni fin. Alors qu'être humain, c'est être limité, c'est avoir un commencement, la naissance, et une fin. La mort. Mais des natures opposées peuvent très bien coexister dans la même personne. Cela n'est pas tout à fait sans précédent. Chacun de nous, sur un autre plan, est une personne avec deux natures opposées. âme et corps, visible et invisible, existant dans l'espace et ne pas existant dans l'espace. Votre âme n'existe pas dans l'espace. Elle n'a aucune dimension physique mesurable. Votre âme n'a pas de poids, votre âme n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Bon, la plupart des chrétiens, quand ils disent « je crois que Jésus est le Fils de Dieu », ne pensent pas à des définitions théologiques abstraites, pas plus que nous ne pensons à la formule chimique H2O quand nous demandons un verre d'eau. Nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu quand nous croyons en Jésus et quand nous mettons en pratique cette croyance en adorant Jésus et en le reconnaissant comme Seigneur. La formule que nous trouvons dans les écrits de Saint Paul, Jésus est Seigneur, est probablement le plus ancien credo chrétien. Le mot grec qui est traduit Seigneur ici, Kyrios, en fait désigne la souveraineté divine. Cette confession de foi était le moyen le plus fondamental et le plus essentiel de distinguer ce que croyaient tous les chrétiens et ce que croyaient tous les autres. Aucun chrétien nie que Jésus est Seigneur. S'il le nie, c'est qu'il n'est plus chrétien. Et aucun non-croyant croit que Jésus est Seigneur. Au moins pas dans le sens que cette formule a dans le Nouveau Testament. S'il le croit, on pourrait soutenir qu'il est déjà chrétien, ou pas loin de le devenir. Mais pourquoi cette doctrine, qu'on appelle la filiation divine de Jésus, la croyance que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi cette doctrine est-elle si importante? Mais nous avons déjà croisé une des raisons principales. Cette doctrine est la pierre de touche du christianisme. C'est le moyen, c'est la croyance qui, le plus clairement, le plus fondamentalement, distingue les chrétiens des non-chrétiens. Deuxièmement, c'est la base de toutes les autres croyances des chrétiens. Si le Christ est divin, cela veut dire que son autorité est suprême et infaillible. Vous savez, le christianisme n'est pas une philosophie. C'est une religion. Il repose non pas sur la raison humaine, mais sur un message divin, sur une révélation de Dieu. Les chrétiens ne sont pas parvenus à leur croyance à coup de raisonnement humain, à coup de raisonnement logique. Ils ne fondent pas non plus leur croyance sur leurs propres expériences, ni sur leurs propres intuitions mystiques, ni sur leurs propres sentiments humains. Ils fondent leur croyance sur une seule chose, l'autorité. L'autorité de Dieu lui-même. Ce Dieu qui est devenu homme dans la personne du Christ. Ce Dieu qui a donné mission à ses apôtres d'enseigner dans son nom, et de rédiger les Écritures, le Nouveau Testament, et de faire connaître le nom du Christ à toutes les générations. La troisième raison de l'importance de cette doctrine est personnelle, existentielle. Si Jésus est Seigneur, il est mon Seigneur, et le Seigneur de ma vie, et de tout ce qu'il y a dans ma vie. Mes pensées, mes choix, mes valeurs morales, mon corps, mon argent, mes relations avec les autres, ma vie sexuelle, ma carrière, ma mort, en espérance d'éternité. Si Jésus est Seigneur, il est le Seigneur de tout. Et donc, il est mon Seigneur. Quatrièmement, si le Christ est à la fois Dieu et homme, eh bien, c'est lui qui nous fait connaître d'une manière définitive et insurpassable qui Dieu est et qui nous sommes. Dieu ne nous cache rien dans le Christ. Écoutez ce que Jésus dit. C'est dans l'Évangile selon Jean. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Toute révélation, toute vérité. En Luc chapitre 10, Jésus dit encore, tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. L'apôtre Paul ajoute ceci, car en lui, en Jésus, habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et puis ce texte en Jean chapitre 14, très célèbre, où l'apôtre Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela suffit, nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Le Christ nous montre le vrai visage de Dieu. Mais le Christ nous montre aussi le vrai visage de l'humanité. Notre vraie nature. Notre vraie identité. Voici ce que nous avons été destinés à être. Voici une vraie réussite. Voici un être humain pleinement accompli. Voici une vie humaine parfaite. Voici le modèle parfait de tout ce qui est humain. Le Christ montre le vrai Dieu à l'homme et le vrai homme à l'homme. Les chrétiens ont tendance à oublier à quel point il est difficile de croire à la divinité du Christ. Cette doctrine est littéralement l'idée la plus étonnante et la plus stupéfiante jamais conçue au cours de l'histoire humaine. Cet homme, Jésus de Nazareth, ce fils de charpentier, né d'une femme comme tout autre être humain, qui a dû apprendre à marcher et à parler, qui a connu la fatigue et la faiblesse, la douleur et la faim. Cet homme qui a souffert la mort par crucifixion. Cet homme est Dieu, l'Esprit infiniment parfait, infiniment puissant, infiniment éternel, qui a créé l'univers. Incroyable. Je ne vais pas essayer de vous prouver que cette doctrine est évidente, facile ou probable, parce qu'elle n'a rien d'évident, de facile ou de probable. Je comprends très bien le non-chrétien qui saisit bien le sens de cette doctrine et qui secoue la tête en signe de stupéfaction, se demandant comment se fait-il que des millions d'hommes et de femmes, par ailleurs rationnels et saints d'esprit, dont un bon nombre compte parmi les personnes les plus intelligentes du monde. Comment se fait-il que tous ces gens puissent croire une telle chose? Cette énigme devrait empêcher tout chercheur de vérité de faire ce que font la plupart des non-croyants, écarter la doctrine comme un simple mythe, comme une exagération pieuse. Quelque chose à ne pas prendre au sérieux. Cette doctrine peut être pleine d'autres choses, mais elle est sérieuse. Si ce n'est pas la vérité suprême, alors c'est la stupidité suprême. Le non-croyant qui prend des chrétiens pour des fous est peut-être plus près de la foi que le non-croyant qui pense que les chrétiens sont des personnes gentilles, mais qui croit comme ça à un point obscur d'une religion ancienne. Ceux qui ont crucifié le Christ pour blasphème étaient peut-être plus près de la foi que l'humaniste moderne qui applaudit les enseignements éthiques de Jésus, tout en passant sous silence ce que Jésus a dit sur sa propre personne. Alors nous allons ça c'était l'introduction. Donc nous allons regarder ce soir deux arguments en faveur de la divinité de Jésus. Un argument logique et puis plus brièvement un argument moral. Mais tous les arguments, quels qu'ils soient, ont besoin de données. Les renseignements que nous possédons sur Jésus et sur sa vie nous viennent surtout du Nouveau Testament et de l'Église, c'est-à-dire la communauté de croyants qui a transmis l'histoire de Jésus de génération en génération. Ces renseignements nous mettent en face d'un personnage qui a eu sur les autres et sur l'histoire un plus grand impact que n'importe quel homme qui ait jamais existé. Et pourtant, Jésus n'a jamais fait de la politique, il n'a jamais combattu dans une guerre, il n'a jamais écrit un livre. Il a habité dans un petit pays paumé, il n'a jamais été à plus de 200 kilomètres de chez lui. Il a été exécuté par crucifiement, comme un criminel dangereux. Ses enseignements éthiques n'étaient pas vraiment nouveaux. Presque chaque conseil que Jésus nous a donné pour vivre, on peut le retrouver déjà dans l'Ancien Testament, ou même dans la philosophie de Socrate, ou de Bouddha, ou de Lao Tzu, ou de Confucius. Quelle était donc la cause de l'impact sans précédent qu'il a eu sur le monde? C'était peut-être sa personnalité. Mais sa personnalité n'était pas du tout sans précédent. On avait déjà vu des maîtres de sagesse bons et créatifs. Mais c'était peut-être sa prétention à la divinité. Mais cela non plus n'est pas tout à fait sans précédent. Il y a des centaines de personnes qui prétendent être Dieu. On peut trouver la plupart d'entre elles dans des asiles psychiatriques. Non, ce qui était sans précédent, c'était l'union de ces deux choses. Aucun autre sage n'avait prétendu être Dieu. Et aucune autre personne prétendant être Dieu n'avait été si sage. Ce qui était unique chez Jésus, c'était le mariage de sa personnalité attrayante et de ses prétentions extravagantes. Jamais une personne aussi croyable n'a fait sur elle-même des déclarations aussi incroyables. L'alliance apparemment incompatible de sa personne et de ses prétentions fait de Jésus unique en son genre. Une énigme, la plus grande énigme de l'histoire. Nous ne pouvons résoudre cette énigme que de deux manières. Il n'y a que deux façons de résoudre l'énigme de Jésus. Ou bien accepter ses prétentions à la divinité, parce qu'on a d'abord accepté sa personnalité, sa crédibilité, sa fiabilité, son autorité personnelle. Ou bien rejeter sa personnalité, parce qu'on a d'abord rejeté ses prétentions à la divinité. Mais quel genre de personne était Jésus? Quel genre de personne? D'après toutes les données historiques qui sont parvenues jusqu'à nous, C'était un homme sage. C'était un homme bon. C'était un maître de sagesse, digne de confiance. C'est-à-dire, il n'était ni trompeur, ni trompé, ni un baratineur immoral, égoïste et menteur, ni un doux rêveur sincère, mais éperdument naïf, qui n'a aucun sens des réalités, ni un fraudeur, ni un fou. Il a prétendu être Dieu, une prétention énorme. Vous vous rendez compte? Si je me présentais devant vous ce soir et vous disais, mesdames, messieurs, j'ai une annonce très importante à vous faire. Moi, je suis descendu du ciel et je suis Dieu. Ça m'étonnerait que vous me croyiez. Une prétention incroyable. Mais, contrairement à moi, vous me connaissez trop. Sa personne était crédible. Pour ceux qui l'ont rencontré, c'était bien là le nœud de la question. Il devait ou bien croire à sa prétention presque incroyable, ou bien ne pas croire à sa personne très très croyable. Les sources historiques nous montrent, elles aussi, un homme qui prétendait être Dieu. Une prétention que Jésus exprimait de plusieurs façons différentes dans les quatre évangiles. J'en ai fait une petite liste. Jésus s'appelait souvent Fils de Dieu. Il prétendait avoir l'autorité de pardonner tous les péchés, ce qui est une prérogative de Dieu. Moi, je peux vous pardonner les péchés que vous avez commis contre moi, mais je ne peux pas vous pardonner les péchés que vous avez commis contre d'autres personnes. Il a accompli de nombreux miracles. Il a ressuscité des morts. Lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. Il a accepté le titre « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a accepté l'adoration de ses disciples. Il s'est attribué lui-même, à lui-même, le nom divin ineffable. « Je suis ». Ça, c'est un incident qu'on peut lire en Jean chapitre 8. Jésus disait à ses adversaires juifs, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Abraham avait vécu 2000 ans auparavant. Et Jésus dit, « avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » C'est à ce moment-là que les juifs ont ramassé des pierres pour tuer Jésus, pour blasphème. Jésus a promis de remonter au ciel, parce qu'il était descendu du ciel. Il a promis de rentrer chez lui au ciel et d'envoyer l'Esprit Saint à ses disciples. Il a prétendu avoir le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Il a dit qu'il reviendrait à la fin des temps. Voilà les données. Une partie des données. Comment est-ce qu'on va les interpréter? Ben, il n'existe au fond que deux interprétations possibles. Ou bien Jésus était Dieu, ou bien il n'était pas Dieu. Voici à quoi ressemble cet argument sous sa forme la plus simple. Ce n'est pas compliqué, hein? Vous n'aurez pas de mal à suivre. Jésus était un ou bien Dieu, si ce qu'il prétendait était vrai, ou deuxièmement, il était un homme mauvais, si ce qu'il prétendait n'était pas vrai. Car les hommes bons ne prétendent pas être Dieu. Or, Jésus n'était pas un homme mauvais. Si jamais il a existé un homme qui n'était pas mauvais dans l'histoire humaine, c'était bien Jésus. Donc, Jésus était et il est Dieu. Les premiers apologistes chrétiens ont vu que ceci vraiment est le nœud de la question. Et ils ont développé un argument. Il faut me pardonner mon accent en latin, je n'ai pas fait de latin. Un argument, aut deus, aut homo malus. Le Christ était ou bien Dieu, ou bien un homme mauvais. Or, presque tous les non-croyants de toutes les époques ont cru que Jésus n'était ni Dieu, ni un homme mauvais, mais que Jésus était un homme bon, un maître de sagesse. Mais un homme bon est la seule chose, justement, que Jésus n'a pas pu être. Il n'a pas pu être simplement un homme bon. S'il était bien le Dieu qu'il prétendait être, alors il n'était pas simplement un homme bon, hein? Il était bien plus qu'un homme. Et s'il n'était pas le Dieu qu'il prétendait être, ben c'était un homme mauvais. Un homme qui prétend être Dieu et qui ne l'est pas, on ne peut pas l'appeler un homme bon. En fait, c'est ou bien un fou, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui prétend être Dieu, qui croit être Dieu et qui ne l'est pas, ou bien un menteur. Parce qu'il prétendait être Dieu tout en sachant parfaitement que ce n'était pas vrai. Alors, Dieu, menteur ou fou, voilà les seules possibilités. Les deux dernières possibilités, Jésus le menteur et Jésus le fou, ne sont pas très populaires aujourd'hui. Et en fait, n'ont jamais été très populaires. Comment donc les non-chrétiens, je veux dire les non-chrétiens qui réfléchissent, qui sont sérieux au sujet de leur incrédulité, comment est-ce que les non-chrétiens peuvent échapper à cette alternative, Dieu, menteur ou fou? Eh bien, ils ont recours à deux nouvelles possibilités inventées pour l'occasion, deux nouvelles façons de comprendre Jésus. Selon la première nouvelle théorie, Jésus était un gourou, un mystique, un genre de panthéiste hindou. Donc, Jésus est bien Dieu, comme il a prétendu être. Et donc, il n'est pas un menteur, il n'est pas un fou. Mais, par le mot Dieu, Jésus n'entendait pas le Dieu des Juifs. La personne, le Dieu personnel et infini qui a créé l'univers. Jésus voulait dire simplement que nous sommes tous Dieu. Nous faisons tous partie de Dieu. Dieu est en chacun de nous. Nous sommes tous des manifestations de Dieu. Cette théorie voit en Jésus un genre de panthéiste. Le panthéisme, c'est la croyance que tout est Dieu et que Dieu est tout. De ce point de vue, paraît plausible au début, parce que les panthéistes ont toujours été assez nombreux dans l'histoire de la pensée humaine, surtout dans l'hindouisme, mais ailleurs aussi. L'Occident a toujours eu ses panthéistes. Donc il n'est pas inconcevable que Jésus fût un panthéiste. Dans ce cas, sa prétention à la divinité n'a rien d'unique, hein? N'a rien d'extraordinaire même. Bien sûr que Jésus était Dieu. Nous sommes tous Dieu. Bon, il y a deux problèmes, gros problèmes, avec cette théorie. Premièrement, elle n'a absolument aucun fondement historique. Jésus n'était pas hindou. Il était juif. Il n'a jamais quitté le pays d'Israël et il n'y avait pas de panthéiste en Israël. Le judaïsme de l'époque de Jésus a compté bien des, on dirait aujourd'hui des sectes, mais ce mot a pris un sens péjoratif, des mouvements à l'intérieur du judaïsme, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et d'autres. Mais aucun de ces mouvements n'était panthéiste. Deuxième problème, si Jésus était un gourou, ben il était le maître à penser le plus nul de l'histoire.